Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 6 octobre 93 à Saint-Jaudard.
Excusez-moi pour le cours de ce matin, métaphysique, et le suivant. Et alors, on prend la métaphysique puisque c'est le plus important. Toujours dans l'introduction. La source, c'est la Grèce. Pour notre culture européenne, c'est sûr. Et ça reste source. Après, il y a, autant qu'on peut le préciser, mais souvent on le précise comme ça, il y a tous les pères de l'Église, c'est-à-dire un souffle nouveau. Parce que la Grèce, ça va jusqu'au deuxième siècle après Jésus-Christ. Platon, le courant néoplatonicien. Il faut lire un peu de Platon. Je ne dis pas en lecture spirituelle, mais presque. Il y a des pères de l'Église qui ont copié entièrement Platon. Saint Ambroise. Des morceaux entiers. Tellement les pères de l'Église étaient séduits par la pensée de Platon. Passage merveilleux de Platon sur Sidé, le silence. Pour lui, c'est le terme de toute la philosophie, c'est le silence. Alors il y a Platon, Proclus, Damasius, les trois grands néoplatoniciens. Les pères de l'Église qui commencent, eux, dès le premier siècle, à la fin. Il y a un grand-père de l'Église qui est Saint Jean, puisque c'est la fin du monde. Et on le considère comme le théologien. Et Saint Jean s'est inspiré. Alors je ne peux pas dire que c'est un théologien au sens restreint. Théologien au sens très large. Les orthodoxes regardent Saint Jean, le théologien. Et on peut le regarder comme ça pour nous, le théologien. Les pères de l'Église vont utiliser la philosophie grecque d'abord. Tout l'aspect beaucoup plus éthique des stoïciens. Les stoïciens ont marqué très fort la pensée d'Église. Pas oublier qu'Épictète, le dernier stoïcien, enseignait à Rome en l'an 50. Et sûrement que quelqu'un comme Pilate a subi les influences du stoïcisme. Parce que la philosophie de ce temps, c'était pour tous les gens qui faisaient une carrière politique. C'était pour tous ceux qui voulaient réfléchir sur l'homme. La philosophie était beaucoup plus populaire que pour nous. Maintenant, elle est restreinte dans les universités. On fait de temps en temps des cours d'université populaire. À Fribourg, il y avait ça. C'était amusant, du reste. Et intéressant, parce qu'on avait toute espèce de personnes qui aimaient faire un peu de philosophie. L'école Saint-Jean a un degré supérieur de l'école populaire, mais c'est pour le peuple chrétien. Alors, ce qui est très intéressant dans la période des pères de l'Église, c'est de voir que spontanément, on a fait de la théologie. Pourquoi ? Pour défendre, c'est d'abord apologétique, pour défendre contre les païens la révélation, montrant combien elle est humaine et combien elle est divine. Donc c'est d'abord apologétique. Puis après, c'est pour montrer l'existence de Dieu devant ceux qui la niaient. C'est pour former ce qu'on a appelé au Moyen-Âge, chez les théologiens, les préambula fidei. Preambula Fidei sont formés en théologie. Le Preambula Fidei, vous voyez ce que c'est dans le langage de Thomas d'Aquin, c'est tout ce que l'intelligence humaine peut par elle-même atteindre sans faire appel à la foi. L'existence de Dieu, l'existence de l'âme spirituelle créée par Dieu. Tout problème de la création. Preambula Fidei. Ce serait bon aujourd'hui, voyez, de rétablir les Preambula Fidei pour ne pas tomber dans le fidéisme et montrer que tout homme bien né, intelligent, doit réfléchir sur l'homme. Et aujourd'hui, ça devient une obligation avec la science biologique qui veut commander l'éthique. D'où la bioéthique. Alors, c'est une obligation. Si nous voulons maintenir que l'âme spirituelle est créée par Dieu, que l'âme spirituelle n'est pas lié au corps. Il faut faire un peu de philosophie de l'âme. C'est nécessaire. Or, si on veut faire de la philosophie de l'âme jusqu'au bout, il faudra faire la métaphysique. Et par les pieds, la physique, philosophie de la matière. La philosophie du vivant est intermédiaire, comme on le verra. Alors, toute cette période est très intéressante, mais vous voyez qu'au plan philosophique, il y a Boès, évidemment, le philosophe de la consolation du philosophe. Donc quand vous avez le cafard, déconsolationné, philosophié. Alors lisez Boès, c'est la consolation du philosophe. C'est un livre qui a joué un très grand rôle au Moyen-Âge. Beaucoup moins aujourd'hui. Vous voyez, parce que c'est à moitié de la littérature et de la philosophie. C'est le Camus de l'époque. C'est le Cicéron des stoïciens. Oui, ce sont des gens qui sont entre les deux. Et qui c'est pas de la vraie philosophie, c'est pas de la philosophie à la manière d'Épictète. Mais c'est une philosophie très liée à la rhétorique. Donc très liée à l'aspect littéraire. Et qui par le fait même a quelquefois beaucoup plus d'influence que la philosophie. Parce que c'est davantage lu. Progressivement, après les stoïciens, Platon a été introduit, et le néoplatonisme. Les stoïciens, le néoplatonisme, Platon et Aristote. Très peu de pères de l'Église ont puisé dans Aristote. Maxime le Confesseur, pour l'Orient. Thomas d'Aquin, pour les Latins. Et c'est très intéressant de voir que Maxime le Confesseur, qui a été mis très en lumière grâce au père Danielo. Avant, on n'en parlait pas du tout. Maxime se taisait. Tandis que depuis le père Danielo, on ne peut pas ignorer Maxime le Confesseur, qui est quelqu'un qui connaissait bien Aristote. Alors c'est intéressant de voir dans le monde oriental, et que les orthodoxes admettent parfaitement Maxime le Confesseur. Il faut ensuite comprendre la réaction y a là une distinction qu'il faut faire, parce que cette phrase de Pascal qu'on répète tout le temps, elle doit être prise dans le contexte. Le dieu du philosophe, c'est Descartes. On a une idée de Dieu. Alors posez-vous la question, pouvons-nous avoir une idée de Dieu? Tout le monde l'emploie, même le père Garrigou. Et le Saint-Père aussi de temps en temps. Alors, il ne faut pas se choquer, c'est un langage qui est admis, mais au sens strict, Sartre a eu raison de dire que si on avait une idée de Dieu, ce n'était pas Dieu. Parce qu'on enfermait Dieu dans notre pensée. Et on ne peut pas enfermer Dieu dans notre pensée. Ce n'est plus Dieu. C'est Sartre qui a dit ça avec le plus de force. Il faut reconnaître. Malin. Alors il peut dire des choses qui quelquefois sont intéressantes. On peut dire que de Descartes à Hegel, il y a une continuité. Du reste, il faut voir ce que Hegel dit de Descartes. Il a un très grand respect vis-à-vis de Descartes. Or, Descartes dit explicitement qu'il tourne le dos à Aristote. Il n'est pas seulement anti-théologien, il est anti-philosophie de l'être. C'est la philosophie des idées. Donc c'est la philosophie de l'esprit, comme on a dit. Mais c'est même pas de l'esprit, c'est de l'entendement. Alors on pourrait faire une petite recherche, qu'est-ce qu'on veut dire exactement Descartes, la philosophie de l'entendement. Ce serait intéressant du reste. On ne l'a pas fait tellement. On a beaucoup parlé de ce que Descartes dit. Alors il y a diverses manières de traiter Descartes et de faire une espèce d'exposition de la pensée de Descartes. Parce que il veut des idées claires, mais elles ne le sont pas du tout parce qu'elles sont fausses. Mais il veut des idées claires, mais elles ne sont pas vraies. Je n'ai pas l'idée d'infini. Descartes là, dès le berceau. Il a l'idée d'infini est innée. Or, je n'ai pas l'idée d'infini. J'ai l'imagination de l'infini. Mais je n'ai pas l'idée d'infini. L'idée de la liberté. Prends les deux, parce que c'est l'infini et la liberté qui vont permettre avant tout, et la perfection, de prouver l'existence de Dieu. Alors, à partir de l'idée, on prouve l'existence de Dieu. Entre Descartes et Hegel, il y a divers courants. Je ne vais pas les voir, c'est pas. Je ne veux pas faire un cours d'histoire de la philosophie. Mais il y a un qu'on ne doit jamais oublier, c'est Kant. Kant est pour l'Allemagne ce que Descartes est pour la France. Et comme l'Allemagne a été très féconde en philosophie, surtout ces derniers temps, alors que la France n'a plus du tout le même élan. Ça reviendra peut-être. Mais toujours est-il que Kant, pour lui, la métaphysique ne peut pas exister. Et c'est très simple, parce qu'il n'y a pas de jugement d'existence. Il y a une expérience des étangs, pour parler le langage de Heidegger. Il y a une expérience des réalités sensibles. Mais l'être, ceci est, n'est atteint que par les formes a priori, que par l'aspect transcendantal de notre connaissance. Et il y a une idée d'être, mais il n'y a pas de jugement d'existence de l'être. Pourquoi ? Parce que l'expérience ne me donne pas l'être. L'expérience me donne le devenir et les réalités sensibles. Et puis c'est tout. Donc il y a une coupure complète entre ce que représenterait une dépasse le monde sensible. Et l'idée d'être, c'est ce qui dépasse le monde sensible. C'est pour ça que Kant, qui au point de départ avait été très influencé par la métaphysique scolastique de Wolff, va rejeter ça violemment. Et ça, c'est très important pour comprendre Kant. Et on le voit pas assez. On oublie trop le jeune Kant, disciple de Wolff. Il a donné ses preuves d'existence de Dieu qui sont de Wolff. Et Kant, arrivé je ne sais plus à quel âge, il y a eu une espèce de conversion, de rejet complet. Et ça se voit d'une manière très remarquable dans la manière dont Kant critique les voies d'accès à l'existence de Dieu. Pour lui, toutes les voies d'accès à l'existence de Dieu dépendent de Descartes. Et toutes impliquent un ontologisme. La grande exister. C'est la même chose d'avoir une idée nette et de dire ceci est. Et ça arrive encore aujourd'hui. On a eu comme ça une fois à Fribourg, on s'est beaucoup amusé, c'était les étudiants qui voulaient faire ça. Ils suivaient le cours d'un autre professeur que je ne nomme pas. Un autre professeur en philosophie, en histoire de la philosophie, puis en philosophie, en logique. Et puis, le cours que je donnais de critique, et il s'apercevait que c'était tout à fait différent. Alors, ils voulaient voir un petit peu clair là-dedans. Ils m'ont dit, est-ce que ça vous ennuierait de faire devant nous, un combat de coq ? C'est-à-dire de demander à tel professeur d'exposer ce qu'il dit et vous vous exposeriez, puis vous battriez jusque l'un disparaisse et que l'autre le porte au cimetière. Alors il y a eu des combats comme ça, extraordinaires. Et alors, ce qui pour moi était le plus significatif, c'est que quand je disais pour vous, c'est la même chose, ceci et ceci est. Il disait oui. Alors ça montre exactement ce que c'est que l'ontologisme. Ceci est et ceci est. Ceci tout court et ceci est, c'est la même chose. Vous voyez, l'appréhension et le jugement s'identifient. Il n'y a plus de distinction entre les deux. Alors on est là, en face d'un ontologisme parfait. Si toutes vos idées, dans la mesure où elles sont parfaites, impliquent l'exister, voyez, tous les projets que vous faites, ce sont des idées quand même, et quelquefois très intelligentes, tout ça existe. Alors la multitude d'univers qu'il peut y avoir devant lesquels on se trouve. Alors, Kant est quand même quelqu'un, je ne dis pas très intelligent, c'est un professeur, et uniquement un professeur, d'une régularité parfaite pour, on le dit habituellement, pour sa petite sortie de l'après-midi avec son chien. Ça, il paraît que c'était réglé, on savait l'heure, comme ça. Et on prétend, certains prétendent ça, qu'au fond, Kant n'était pas dupe. Il gardait l'image qu'on s'était faite de Kant. Mais que, de fait, à la fin de sa vie, tout ça, c'était un système. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que puisque la métaphysique n'existe plus, tout est orienté vers l'homme. orienté vers l'homme. Et c'est pour ça que Kant a inventé un mot, anthropologie. La philosophie de Kant, c'est l'anthropologie. Et tous ceux qui nient l'existence de la métaphysique sont un peu sous l'influence de l'anthropologie. Quand Karl Rahner, un des grands théologiens de Vatican II, si ce n'est pas le plus grand, moi celui qui avait le plus grand influence, Karl Rahner dit explicitement que la théologie moderne a remplacé l'utilisation de la métaphysique par l'utilisation de l'anthropologie. C'est très intéressant comme affirmation. Il y a un étudiant à Fribourg qui voulait faire une thèse sur la philosophie de Rahner. Il lui a écrit en disant « Quelle est votre philosophie ?» Rahner a répondu « Je n'en ai pas. » Il m'a montré la lettre. Je n'ai pas de philosophie. Je prends mon bien n'importe où. Je suis un théologien. C'est intéressant parce que ça montre que il ne savait pas très bien. Et quand Hans Kuhn, qui a fait beaucoup parler de lui, a été un peu condamné par l'Église, Hans Kuhn a écrit à Karl Rahner, je vous ai suivi. Et voilà que je suis condamné. Il a suivi systématiquement Rahner, chassant toute pensée métaphysique et ne prenait qu'une anthropologie. Donc, sous ce point de vue-là, Kant joue un rôle très important et difficile. Il faut lire le livre de Clavel sur Kant. Clavel dit, j'ai eu une peine énorme d'entrer dans Kant, comme français, une peine énorme d'entrer dans Kant. Mais il fallait à tout prix, j'étais bien obligé pour entrer. Pour faire sa licence et surtout son agrégation. N'en suis jamais sorti. Il a été converti à la fin de sa vie. Vraiment une conversion. Il n'a jamais. Il était toujours chrétien, il a été baptisé, mais il ne pratiquait plus. Et il a été très secoué, très lié au charismatique au point de départ. Et de fait, je connaissais quelqu'un qu'il connaissait très bien et qui voulait à tout prix que je le voie et qu'on discute. Je ne disais pas la peine. Un conscien qui est vraiment un conscient, on peut pas, c'est pas la peine, non. Tout le langage est différent, c'est, on peut plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que sa conversion n'a rien touché à sa philosophie. Ça, c'est un petit problème. Pour ceux qui regardent les rapports entre l'intelligence et la foi, de voir que quelqu'un comme Clavel, qui était conscient à fond, recevant le coup de la grâce, mais vraiment, alors là, de façon très charismatique, rien touché. Jusqu'à la fin de sa vie, il est resté conscient. Moi, oui, ça me pose un petit problème, ça. Mais certains le disent, vous savez, certains le disent avec beaucoup de simplicité. Des supérieurs de vie contemplative d'hommes m'ont dit ça n'a aucune importance que mes étudiants, mes frères qui font des études pour le sacerdoce et pour le soit féminologue, idéaliste, conscient, ça n'a aucune importance. La foi est tellement supérieure. Ce n'est pas le langage du pape. Parce que pour le pape, l'Église doit maintenir la métaphysique. Ceci, c'est pour montrer que c'est très important ces rapports entre l'intelligence et la foi. Et tous les pères de l'Église. chacun ensuite ont vécu cela. Ordinairement, ils n'ont pas été suffisamment philosophes, sauf Thomas d'Aquin. Mais même Thomas d'Aquin, d'une certaine manière, vu le contexte dans lequel il était, il parlait aux croyants. Évidemment, il a écrit le Contra Gentiles. Alors, écrivant le Contra Gentiles, saint Thomas attaquait ceux qui prétendaient que l'intelligence humaine n'était pas capable d'atteindre l'existence de Dieu. Donc, le Contra Gentiles est une apologétique remarquable. C'est la seule apologétique acceptable. Elle est merveilleuse. C'est une très grande apologétique. Si tous les apologètes se former au Contra Gentiles, ce serait parfait. C'est comme l'exégèse de saint Thomas de l'Écriture. C'est pas suffisant, je suis d'accord. Tout ce qui s'est dit depuis ces dernières années, mais cette exégèse demeure. C'est une exégèse théologique. Et on a le droit d'avoir une exégèse théologique. Et non seulement on a le droit, mais on a le devoir. Donc, il faut bien comprendre cette période si importante de Descartes à Hegel. Et dans cette période, le dernier grand, c'est Leibniz. Le dernier grand scolastique, le dernier grand philosophe universel du côté de l'extension. C'est extraordinaire, Leibniz. Mais Leibniz, alors, c'est l'ontologisme dans toute sa splendeur. Le principe de raison suffisante, le manifeste. Quand on connaît une réalité, on n'a pas besoin de voir si elle existe ou elle n'existe pas. On n'a pas besoin. On connaît ce qu'elle est. C'est très proche de Descartes, vous savez. Parce que voir si elle existe, j'ai des idées, je connais la réalité, c'est suffisant. Et ça a pénétré dans la scolastique, Leibniz. Le bon père Caricou-Lagrange, que j'aime beaucoup, mais dont je peux ne pas être toujours d'accord avec ce qu'il dit. Je me souviens d'une parole mémorable du père Caricou-Lagrange. Il avait vu le plan d'un couvent. Regardez très attentivement. On l'a dit, maintenant il est construit. Est-ce que vous voulez le voir? Ah non, c'est suffisant, j'ai vu son plan. Mais l'idée suffit. Ben oui, dire, mais oui, mais vous verrez si c'est bien réalisé ou pas. Non, c'est pas la peine. Toute l'intelligibilité dans le plan. Et on ne le forçait pas de dire ça. C'était lui-même, parce qu'on l'invitait à aller voir. Ça a imprégné la scolastique, parce que Père Caricou était un des grands défenseurs de la scolastique. Converti dans son noviciat, il y a des conversions intellectuelles au noviciat, converti au noviciat grâce au Père Duhaut. C'est le Père Duhaut qui m'a raconté ça. Parce qu'il avait fait 2 ans de médecine. Et il voulait reprendre tout ce que saint Thomas disait à la suite d'Aristote sur la philosophie du vivant, à la lumière des sciences biologiques. Et le père Duhaut lui a fait comprendre que on ne peut pas prolonger la science pour rejoindre la philosophie. Le point de départ est différent. Et par le fait même, il y a une immense différence au terme. Hegel, on entre dans, au plan philosophique, dans la diaspora. Ça éclate dans tous les sens. Et c'est là où il faut situer tous les athéismes. Anti-béatitude. Et nous nous situons Aristote se situe après les sophistes et nous après les idéologies athées. Il y a des parallèles entre les deux. Si ce n'est que c'est un peu plus construit, les idéologies athées, parce qu'ils se servent de la dialectique de Hegel. Mais Hegel n'est pas un idéologue athée, au contraire. Puisqu'il se dit, il se fait identique à Dieu, donc. Il ne peut pas se détruire lui-même. C'est la meilleure manière de sauver Dieu. De s'identifier à Dieu. Ça, on a une lutte qui est viscérale et qui nous prend entièrement. Alors, vous voyez, c'est pas commun de faire de la philosophie réaliste dans un climat de laïcité, dans un climat scientifique du positivisme, dans un climat d'évolutionnisme au point de vue biologique, dans un climat artistique à la manière de Nietzsche et d'exaltation de l'homme. De telle manière que l'homme n'a plus besoin de Dieu. Et il croit se sauver lui-même. Il est persuadé qu'il va se sauver lui-même. Si ça lui ira, ou tout simplement il terminera comme un chien. Et on se trouve devant cela. Alors, il y a multiples manières de répondre. Il faut que Tommy s'adapte à tout. Il y a une mode là-dessus. Il y a toute une série de Tommys qui se sont adaptés à Kant, qui se sont adaptés à l'existentialisme, qui se sont adaptés à Leibniz, qui se sont adaptés à Heidegger, qui se sont adaptés à Hegel. Alors on dirait, vous savez, comme dans les mariages, on mettrait les deux noms. On mettrait Tommysme, un trait, Hegel. Tommysme, un trait, Kant. Tommysme, un trait, structuralisme. Tommysme, un trait. Ils ont cherché le point de contact qu'il y avait entre le tommysme et la philosophie à la mode. Alors, le philosophe, s'il est un vrai philosophe, recherche la vérité. Le tommyste ne peut s'allier qu'à une philosophie qui recherche la vérité. En s'entendant bien sur ce que c'est que la vérité. Autrement, ça ne sert à rien. C'est une adaptation, tout simplement pour prendre la mode. Vous savez, on a dit que les théologiens étaient extrêmement sensibles à la mode, plus que les femmes. Et je crois que c'est aussi très fort comme ça chez les philosophes. Ils ont besoin de parler. Ils ont donc besoin d'un auditoire. Alors s'ils ne sont pas dans la mode, il n'y aura personne. Ils sont des rhéteurs. Philosophie de la parole, philosophie de la parole et en plus la pensée. Je crois que c'est très très important de dire ces choses-là. Alors il faut redécouvrir nous. Parce que je crois que c'est faux de faire ces attelages. Le bœuf et l'âne, c'est condamné par l'écriture. Alors Hegel et la philosophie réaliste, la scolastique, c'est condamné par l'écriture. Faire le thomisme et Kant, c'est condamné par l'écriture. Un faux mélange. Vous savez que la tactique du démon, c'est d'unir ce que Dieu a distingué et de séparer ce que Dieu a uni. C'est toujours ce qu'il fait. Il est très habile là-dedans. Alors, il y a une option à faire. J'ai cru pour de la faire. Mais au début, j'ai commencé une sur la foi. Donc il n'y avait plus que des définitions et donc des idées. Et on retombait dans un primat des idées. Alors, il m'a semblé qu'il fallait tout reprendre à partir du jour d'existence et revenir à la source. Non pas pour copier Aristote, mais pour s'inspirer d'Aristote. Comme saint Thomas. Si on devait enseigner la philosophie hors Vatican II, demande qu'on soit capable de discourir avec tout homme, ouverture au monde, donc ouverture à l'homme, pour pouvoir discuter avec tout homme, pour l'aider à redécouvrir le sens de la vérité. Il faut une philosophie très forte, une philosophie réaliste de l'homme, mais de l'homme impliquant l'ouverture vers la recherche de Dieu. Pas l'anthropologie manière de Kant, mais l'anthropologie à la manière d'un saint Augustin, à la manière d'un saint Thomas. Alors, je crois qu'il faut tout reprendre à partir du jugement d'existence. Pourquoi ? Parce que si vous faites l'enquête, petit topic historique, quel est le point de départ des diverses philosophies ? Je crois que la Grèce nous les donne tous. C'est ça qui est extraordinaire. Tous les points de départ de la philosophie. Quelquefois, c'est pas clair du tout. Mais quelquefois, c'est très clair. Premier point de départ de la philosophie, hein, si je prends Parménide, c'est une sorte de révélation de la déesse. C'est pour ça que le poème de Parménide est si beau. Et tout repose sur une sorte d'intuition. L'intuition, c'est le primat de la relation. À la différence de l'expérience qui implique le jugement d'existence. L'intuition n'implique pas le jugement d'existence. Implique uniquement une relation. Et vous avez une nouvelle intuition quand il y a une nouvelle relation. Vous n'avez jamais vu, au point de vue esthétique, au point de vue artistique, c'est très net. Et là, dans ce domaine-là, on a beaucoup d'intuition. Dans le domaine critique aussi, on a beaucoup d'intuition. Les gens très critiques sont souvent des gens très intuitifs. Il ne faut pas trop leur dire, mais ils sont souvent très intuitifs. Ils s'aperçoivent tout de suite des fausses relations. On a attelé le bœuf et l'âme. Alors quand même, non, parce qu'on ne leur donne pas la même nourriture, il ne faut pas les atteler ensemble. On ne peut pas séparer ce que Dieu a uni, on ne peut pas unir ce que Dieu a séparé. Ouais, distinguer. Alors, l'intuition, la révélation, point de départ, l'expérience interne. Point de départ, la conscience que j'ai. Cogito. Hein. Le point de départ, l'expérience externe, qui n'exclut pas l'expérience interne. Vous voyez, chez Plotin, par exemple, c'est très typique. On a l'expérience externe et l'expérience interne. Mais quand on compare les deux, on soumet l'expérience externe à l'expérience interne. L'expérience interne devient la mesure de mon expérience externe. Alors, évidemment, à ce moment-là, je n'ai plus le garde-fou. La vérité consiste à être logique avec soi-même. Donc, sincère. Parce que la réalité extérieure ne peut plus être la mesure. Tandis que pour Aristote, l'expérience interne demande toujours d'être vérifiée par les sources externes. Autant qu'elle le peut. Et la vérité, c'est la conformation. C'est que mon intelligence, quand elle pense, soit conforme la réalité qu'elle a saisie. C'est ça la vérité. La vérité au sens fort, c'est ça. Et donc cette vérité n'existe que si la philosophie commence par le jugement d'existence. Autrement, je ne vois pas comment on peut l'introduire. Et ça, c'est très important. Alors, pourquoi choisir l'expérience externe comme point de départ et pas l'expérience interne? Parce que le propre d'une pensée philosophique, et je crois que là, c'est commun chez tout philosophe, c'est que le philosophe s'intéresse à tout. Et il doit s'intéresser à tout. Au croyant, à l'athée, à l'artiste, à celui qui est purement moraliste, à l'homme de loi, au législateur. Il doit s'intéresser à tout, parce que partout où il trouve l'homme, il trouve son bien. Si on part de cette définition extrêmement commune, parce que je crois que tous les philosophes, s'ils sont philosophes, disent que la philosophie doit s'intéresser à tout. Elle doit porter son regard sur tout. Donc, une connaissance exhaustive, puisqu'elle regarde même Dieu. Dire s'il existe ou s'il n'existe pas. Elle regarde la finalité, elle regarde le bien, elle regarde l'inspiration, elle regarde tout, elle regarde le langage. Tout peut être considéré par le philosophe. Tout ce qui dépend de l'homme, tout ce qui vient de l'homme, et tout ce qui est antérieur à l'homme intéresse le philosophe. La matière, puisque l'homme le travaille. Donc tout ce que l'homme travaille, tout ce que l'homme se sert, intéresse au philosophe. Donc, si le philosophe est une connaissance exhaustive, le point de départ ne peut pas être restrictif. Il faut que le point de départ puisse regarder tout. Tout peut être atteint par l'expérience externe, c'est-à-dire l'alliance de l'intelligence et du toucher. C'est le toucher. Vous allez dire tout de suite, ah mais l'invisible. Alors la philosophie, c'est le passage du visible à l'invisible. Oui, du visible à l'invisible. C'est le titre d'un ouvrage posthume de Merleau-Ponty. Et la raison, c'est très juste de dire que la philosophie, c'est le passage du visible à l'invisible. Mais voyez, le visible n'est atteint par l'expérience. Et l'invisible, c'est le dépassement. Le philosophe ne s'identifie pas à l'expérience externe, non. Mais il dit que le point de départ de la philosophie, c'est l'expérience externe. Pourquoi? Parce que c'est le jugement d'existence. Or, le jugement d'existence est toujours lié à un sensible propre. Toujours. C'est ce que Kant a très bien vu. Il l'a vu d'une façon qui est terrible. Il a vu que l'expérience externe reste liée au sensible. Et je ne peux pas expliquer le passage du visible à l'invisible. Donc l'invisible a sa propre organisation. Et l'invisible, c'est toutes les formes a priori. Partant de l'expérience, je n'exclus ni l'intuition, ni l'expérience interne. Je n'exclus rien, parce qu'il s'agit de passer du visible à l'invisible. Et que dans l'homme, il y a le visible et il y a l'invisible. Quand vous vous regardez dans la glace, ce que vous ne faites plus, quand vous regardez dans la glace, vous voyez de façon extérieure. Et vous voyez comme les autres vous voient. Tandis que vous, si vous êtes vrai, vous ne vous regardez jamais dans la glace. Parce que se regarder dans la glace, c'est se voir comme les autres nous voient. La glace est dans l'autre. Par excellence, un autre d'une passivité remarquable lui reflète tout. Alors, il faut bien comprendre que l'expérience externe est une expérience, mais qu'elle demande d'être achevée par les sens internes. Tandis que commencer par l'expérience interne, c'est rejeter l'expérience externe. Descartes avait, parce qu'il avait tellement peur de l'erreur qu'il a rejeté l'expérience externe, parce que la grande idée pour lui, c'était qu'en physique on pouvait se servir, on pouvait se dans le, que l'expérience externe pouvait très bien se tromper. Et on prend tout le temps le même exemple, le bâton. Le bâton mis dans l'eau, il apparaît, coupé, divisé. L'expérience d'un petit cercle qui tourne, sur lequel il y a des petits signes, et bien au bout d'un certain temps, c'est très curieux, on ne voit plus le mouvement. Il va disparaître. Descartes, seuls les sensibles communs sont le point de départ vrai, parce que c'est mesurable. Les sensibles propres ne sont pas mesurables. Vous voyez la différence entre sensibles communs et sensibles propres, hein. Les sensibles propres, ce sont ceux qui sont attachés à un seul sens. Les sensibles communs, c'est ceux qui sont attachés à plusieurs sens. Du moins que je peux atteindre par plusieurs sens. Ils sont cinq, c'est facile à retenir. Comme les cinq sens. Donc il y a un rejet, un débris qui est propre à chaque sens. Il y a le nombre, le continu, la grandeur. Le nombre, le continu, la grandeur. Des réalités sensibles implique toujours ce contact avec les sensibles propres. Et on reste sensible à cela. Parce que le jugement d'existence, si je ne vois plus que le sensible commun, le jugement d'existence disparaît. Il n'y a plus de jugement d'existence. Et c'est pour ça que ceci est la même chose. On ramène le jugement d'existence à l'appréhension. Parmi les réalités que j'expérimente, l'homme est la réalité la plus parfaite. C'est pour ça que la philosophie ne s'encombre pas beaucoup d'une quantité de réalités. Elle expérimente l'homme. Ça lui suffit. Parce qu'il sait qu'en expérimentant l'homme, il expérimente tout l'univers. C'est un petit univers, l'homme. En expérimentant l'homme, il va beaucoup plus loin par rapport à toutes les réalités. C'est pour ça que son départ est toujours l'homme. Ça, c'est important de comprendre ça. Si on comprend ça, on va regarder ce que dans l'homme, on peut atteindre en premier lieu. Quelle est la grande expérience de l'humanité ? C'est le travail. La philosophie commence, de fait, historiquement, c'est ce qui s'est passé. La première philosophie grecque, celle d'Hésiode, les travaux et les jours. Et puis, une théologie, une théogonie, où il a ramassé toutes les traditions religieuses. travailler, c'est essentiel à l'homme pour former sa personne. Du point de vue éducatif, le travail est une des choses les plus importantes. Alors évidemment, on ne peut pas travailler à tout. Mais quand on travaille intellectuellement, il y a diverses façons de le faire. Alors souvent, il n'y a pas de contrôle. Alors on peut travailler n'importe comment, on travaille très mal. Il faut savoir travailler intellectuellement et attaquer un sujet. Alors il faut beaucoup de souplesse, il ne faut pas de méthode. Mais il faut quand même comprendre ça. Puis le travail manuel. On ne rabote pas un morceau de bois n'importe comment. Si on rabote n'importe comment, on s'abîme et on ne fait rien de propre.
Philosophique, les idées, c'est très important pour l'artiste et pour l'homme.
Et tant qu'elle n'est pas réalisée, je peux pas, je peux rien voter dessus. Parallèlement au travail, l'expérience de l'amour d'amitié. Et la troisième, l'expérience de la coopération politique. Vous avez trois grandes expériences humaines qui fondent la philosophie humaine, la philosophie pratique.